Galates, enfin, vous étudiez en église l'épître aux Galates et nous arrivons à ce chapitre 5 qui reprend une thématique centrale dans cet épître. C'est la question de la liberté. L'épître aux Galates, ça pourrait avoir pour thème « Soyez libres, en Jésus-Christ nous sommes libres ». On parle beaucoup de liberté. Tout le monde a envie d'être libre, l'être humain est épris de liberté. La devise de notre France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est quelque chose de central pour nous, êtres humains, nous, Français. Mais ce qu'on apprend en lisant la parole, c'est que l'homme a besoin d'une liberté plus profonde. Il doit être libéré de lui-même, de cette propension naturelle à se détourner de Dieu et à pratiquer le péché, à se détourner de Dieu. Et ça lui colle à la peau, il a besoin d'être libéré. Dans cette lettre écrite par Paul, on est en présence, sans les nommer, d'adversaires à Paul, qu'on pourrait qualifier de légalistes, et qui pense avoir trouvé une solution en imposant des lois, en imposant des rites, en particulier la circoncision, dont il a été question la semaine dernière. Mais la loi ne peut pas changer intrinsèquement l'être humain. Pour une transformation intérieure, il va falloir laisser Christ agir, il va falloir se laisser diriger par Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne à celui qui croit en lui son esprit. C'est lui qui lui donne cette force pour se libérer de sa nature pécheresse. Et Jésus a dit lui-même, si le Fils vous libère, si le Christ vous libère, vous serez réellement libre. C'est en Jean 8, verset 36. Celui qui est en Christ est réellement libre. Ça, c'est la vraie liberté. Celle qui nous remplit de joie en tant que chrétien. Celui qui croit en Dieu reçoit de lui son esprit. Et nous allons étudier différentes facettes de ce que l'esprit produit dans la vie du croyant dans ce passage. Nous verrons d'abord que l'esprit lui permet d'obéir à la loi de l'amour. Nous verrons ensuite que l'esprit permet de triompher de la chair. Et nous verrons ensuite que l'esprit permet de produire du fruit. Versets 13 à 15, l'esprit permet d'obéir à la loi de l'amour. On pourrait distinguer deux tendances naturelles que nous avons en tant que chrétiens, deux extrêmes dans lesquels nous pouvons tomber. Si nous ne prenons pas garde, la première, c'est le légalisme. C'est chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. Chercher par ses propres forces à être rendu agréable à Dieu. Une autre extrême, une autre tendance dans laquelle il ne faudrait pas tomber, c'est le laxisme. C'est croire qu'on peut, une fois qu'on est sauvé, faire tout ce qu'on a envie, vivre une vie livrée à soi-même, à ses propres désirs. Et Paul s'est attaché, durant les premiers chapitres, à démontrer que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. En effet, la loi de Dieu, nous n'arrivons pas à la suivre. Et donc, nous sommes condamnés. Et c'est en cela que la loi devient pour nous malédiction. C'est pour ça qu'il en parle ainsi, Paul. Le seul moyen d'être trouvé juste, il insiste là-dessus, c'est en croyant en Jésus-Christ, le seul juste, lui qui a accompli la loi toute entière, la loi de Dieu évidemment. Et donc il n'y a pas à ajouter quoi que ce soit pour devenir juste aux yeux de Dieu. Si on cherche à gagner son salut en respectant la loi divine, alors on est légaliste. Si on essaye de mériter son propre salut, alors c'est inévitable, on échouera. On échouera et la conséquence, c'est qu'on sera désespéré. Et ça revient à se mettre sous une forme d'esclavage. C'est le langage qu'utilise Paul. L'épître mentionne diverses formes d'esclavage et en particulier le fait de se remettre sous le régime de la loi, par exemple en pratiquant la circoncision. Mais on pourrait peut-être faire des parallèles sur quelle forme pourrait prendre le légalisme pour nous aujourd'hui dans notre Église. C'est souvent d'ailleurs des bonnes choses. Admettons, voilà, j'ai un frère qui vient et qui me dit « Ouais, j'ai un super plan de lecture de la Bible en un an, tu devrais faire ça. Ah, »« Ok, c'est bien, tu veux faire ça, puis je vais mieux connaître Dieu. » Puis j'ai une sœur qui vient et qui me dit « Ah, faut absolument que tu fasses la semaine d'évangélisation avec nous, et vraiment, c'est ça que Dieu veut, il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qu'ils soient tous sauvés, c'est marqué dans Matthieu 28. « Ah ouais, c'est bien, ça je vais faire. » Il faut que j'assiste à toutes les rencontres de l'église. Tiens, on va créer une réunion de prière à 6h30 du matin, le mardi matin, il faut que tu viennes. Et tout ça, c'est des bonnes choses. Mais si je pense que c'est ça qui va me rendre agréable à Dieu, c'est ça qui fait mon salut en quelque sorte, et ben, je me trompe. Et je rentre finalement sous une forme d'esclavage. Donc, je vais pas développer là-dessus parce que c'était plutôt le sujet des textes précédents, c'était le premier extrême. Mais Paul nous dit que Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage de la loi, et qu'en croyant en Christ, nous pouvons obtenir le pardon de nos fautes, nous pouvons être pardonnés par Dieu, et nous pouvons être libérés de notre culpabilité, parce que Christ est mort pour nous à la croix. Le chrétien est donc libéré de la malédiction de la loi, car cette loi le condamnait. Est-ce donc à dire que le chrétien désormais libéré peut mener sa vie selon ses propres désirs? Vivre comme il l'entend, sans contrainte, sans limite? C'est là l'autre extrême. Et c'est cet extrême que Paul identifie ici. La vie chrétienne, ce n'est ni le légalisme d'un côté, ni le laxisme de l'autre. Et Paul donne une mise en garde ici. Ne prenez pas la liberté chrétienne comme un prétexte pour vivre selon la chair, selon les désirs de votre nature propre, suivant les traductions. Et peut-être que c'était une objection qu'on adressait à Paul. D'accord, tu prêches qu'on peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais est-ce que on peut se débarrasser comme ça de toute la loi de Moïse, des prescriptions que Dieu a données? Si on fait ça, ça va être vraiment l'anarchie, ça va être le chaos. Les croyants vont vivre n'importe comment. Évidemment, c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous a sauvés par Christ, mais il nous a sauvés pour mener une vie nouvelle. Nous avons été appelés à la liberté, mais pas une liberté qui nous autorise à pécher. Au contraire, vers quoi nous conduit-elle cette liberté? C'est une liberté qui nous donne l'occasion de servir, c'est ce que nous dit le texte. L'exemple parfait nous est encore une fois donné par Christ, qui s'est fait serviteur lui-même. Il a donné une illustration pratique à ses disciples, qui a dû les marquer, voire même les choquer, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Or, c'était le travail de l'esclave. Et c'était, d'une certaine manière, indigne pour le maître de s'abaisser à cette tâche. Et que Jésus leur répond, suite à cela, il leur dit, « Vous m'appelez Seigneur et Maître, vous avez raison, car je le suis. Mais si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Devenir chrétien, c'est être libéré, mais c'est être libéré pour servir les autres, et non pour vivre n'importe comment. Au contraire, c'est donc entrer dans une vie nouvelle au service de notre prochain. Cette liberté signifie-t-elle qu'on devient libre à l'égard de toute la loi de Dieu et qu'on peut rejeter la loi de Dieu? Non, on ne peut pas conclure cela, parce que Dieu nous transforme pour nous rendre capables de respecter sa loi. Et le texte poursuit sur le fait que la loi se résume dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Savez-vous où se trouve cette phrase ? Dans la Bible, je vous aide. Mais savez-vous où on la trouve ? Exactement. Donc c'est dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. Donc c'est dans l'Ancien Testament. On pourrait dire, oui, mais l'Ancien Testament, c'est la loi, etc. Maintenant, c'est la grâce. Mais est-ce que la loi de Dieu change ? Aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà dans l'Ancien Testament. La volonté de Dieu est déjà là. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est aussi d'aimer son prochain comme soi-même. On pourrait se dire, mais pourquoi cette phrase est un résumé de la loi de Dieu ? Parce que si on réfléchit bien, en tout cas dans nos rapports les uns envers les autres, si on aime notre prochain, on va pas le voler, on va pas le tromper, on va pas convoiter ses biens, on va pas le jalouser. Tout en découle en fait. Une question pratique, c'est, ok, la vie chrétienne à laquelle on est appelé, c'est d'aimer notre prochain. Mais comment on peut y arriver ? Comment trouver la force d'aimer ? On a tellement de mal. Eh bien, encore une fois, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous donne cette force-là, et il nous donne son esprit. Et tout ce passage vraiment nous évoque l'action de l'esprit. Le Saint-Esprit, qui habite dans le cœur du croyant, lui donne l'amour dont il a besoin. Et apparemment, les chrétiens galates ne possèdent pas cet amour. Parce qu'ils ne pensent qu'à se mordre, et à s'entre-déchirer. Verset 15. C'est un peu le langage qu'on pourrait utiliser pour des animaux sauvages. C'est terrible. Dans l'église, s'attaquer les uns les autres. Et ceci est une preuve que la loi en elle-même ne peut pas forcer les gens à s'entendre entre eux. Quel que soit le nombre de règles ou de normes qu'une église impose à ses fidèles, elles ne sont pas une garantie de spiritualité. Si on ne permet pas au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de son amour, alors ce qui va se passer dans nos cœurs, c'est l'égoïsme et c'est la rivalité qui vont régner. Et dans les églises de Galatie, les deux extrêmes, le légalisme et peut-être le laxisme pour d'autres, détruisaient cette fraternité. Notons que le Saint-Esprit n'agit pas dans le vide, dans le sens où le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. Jésus a parlé du fait que l'Esprit qu'il enverra, le Consolateur, rappellera toutes les choses qu'il a dit. Donc le Saint-Esprit se sert pour nos vies de la parole de Dieu, de la prière, du culte, de la communion des croyants pour nous affermir en Christ. Et donc c'est pour ça que le croyant qui consacre quotidiennement du temps pour lire la Bible, pour prier, et qui obéit à ce que le Saint-Esprit lui indique, eh bien jouira de la liberté et qu'il contribuera à l'édification de l'Église. Donc l'Esprit agit premièrement dans le fait qu'il nous permet d'obéir à la loi de l'amour. Certains étaient très attachés à la loi et au rite qu'ils voulaient garder, mais l'Esprit nous amène à une autre loi qui résume tous les commandements de Dieu, la loi de l'amour. Et c'est l'Esprit qui nous permet de le vivre par nos propres forces, ce n'est pas possible. L'Esprit nous permet ensuite de triompher de la chair, c'est les versets 16 à 21. Je vais relire le verset 16. « Je vous dis donc ceci, laissez continuellement le Saint-Esprit diriger votre vie. » Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Se laisser conduire par l'esprit, c'est la condition nécessaire pour triompher de la chair. Les œuvres de la chair vont être ensuite déclinées, et elles sont évidentes, donc on les connaît. Comment triompher de la chair ? On a besoin de se laisser conduire par l'esprit. Et c'est intéressant de voir que le verbe en fait décrit une action continuelle. Il y a une autre traduction qui pourrait dire marcher continuellement de long et en large, en long et en large. Ils font donc continuellement se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il y a aussi une notion qui est importante à souligner dans ce passage, c'est que le Seigneur attend de nous une détermination. L'évangile donne deux facettes dans la vie chrétienne, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Par exemple, le salut accompli à la croix, c'est quelque chose qui est accompli par Dieu entièrement. Je ne peux rien y changer, je ne peux rien faire. C'est Christ qui a accompli le salut. Le Seigneur sauve celui qui se confie en lui. Il l'amène dans une vie nouvelle. Mais dans cette vie nouvelle, il l'appelle aussi à travailler à son salut, nous dit Philippiens 2, verset 12. Et plein d'autres exhortations nous montrent qu'il y a une part du croyant, une part de détermination, une part qui lui revient dans ce que on pourrait appeler le travail de l'esprit dans nos vies pour nous transformer à l'image de Christ. Ce qu'on appelle sanctification, en général, Dieu nous transforme. Et là, Dieu nous demande de faire notre part. Quelles sont les œuvres de la chair ? Les œuvres de la chair, c'est-à-dire de l'homme qui est sans Dieu, qui est livré à lui-même, qui n'a pas de repère. Les hostilités, ou les inimitiés, c'est la haine, c'est une attitude de l'esprit qui défie et qui provoque les autres. Et c'est une attitude qui conduit au discorde, aux querelles, qui est l'achèvement de la haine finalement. La jalousie provoque des rivalités. Les fureurs ou accès de colère, les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes qui finissent par créer des divisions finalement. Les divisions, les dissensions, les partis pris sont aussi des termes qui sont dans le même ordre d'idées. Et ils suggèrent la formation de clans et de querelles de chapelles. Et c'est exactement ce qui se passait dans l'église à laquelle s'adresse l'apôtre Paul. Si on lit cette liste, on pourrait se demander qui n'est pas concerné par l'une ou l'autre chose dans cette liste. Peut-être qu'on n'est pas concerné par les premiers termes de ces propositions-là, l'adultère, le meurtre, etc. Mais dans la deuxième partie, il y a quand même beaucoup de choses où on pourrait se reconnaître dedans. Comment expliquer ça ? Après, l'apôtre Paul nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors comment on fait ? Je pense qu'il faut voir ce que dit le texte, la nuance, c'est que ceux qui pratiquent couramment ces œuvres de la chair montrent qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Et donc, en ce sens-là, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'apôtre Paul, notamment dans l'Épître aux Romains, va parler de ce combat du chrétien contre ses mauvais désirs. Il va dire « je fais ce que je veux pas ». Et il y a cette lutte en moi. Et donc, si nous sommes concernés par l'une ou l'autre de ces œuvres de la chair, ne croyons pas que, entre guillemets, nous sommes grillés et que, voilà, Dieu ne nous acceptera plus. Mais le Seigneur nous appelle à nous détourner de cela, à demander pardon à Dieu. Et merci Seigneur pour sa grâce, il nous accorde son pardon lorsqu'on vient repentant à lui. L'Esprit nous permet donc de lutter contre ces œuvres de la chair qui peuvent s'introduire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos églises aussi. Et l'Esprit, au contraire, nous permet de produire du fruit. Et quel fruit ? Verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsqu'on énumère ce fruit de l'esprit, c'est tellement beau. Qui ne rêve pas de refléter ce fruit de l'esprit, qu'on puisse dire Nathan, c'est ça, il aime, il est joyeux, il a la paix, et on met son nom là. On aspire tous à cela. C'est l'exemple parfait de Jésus-Christ, encore une fois, qui a vécu complètement rempli de l'esprit, qui peut être autrement rempli de l'esprit plus que Jésus. Et notre objectif, c'est de lui ressembler. On a souvent essayé de décomposer un peu ces différentes dimensions du fruit de l'esprit. D'abord, on pourrait dire qu'il parle de la relation avec Dieu, l'amour, la joie et la paix, ces trois premiers éléments. Et que c'est l'esprit qui les place dans le cœur du croyant. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est Dieu, encore une fois, on l'a vu quelques versets plus tôt, qui peut remplir nos cœurs de son amour. Nous avons été aimés par Dieu et en retour, nous voulons l'aimer lui et aimer notre prochain, qui est à l'image de Dieu, créature de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes ancrés dans le fait qu'on est sauvé par Christ. Je suis dans la joie. Notre frère qui partageait son témoignage disait « Je suis dans la paix, je suis dans la joie parce que je sais où je vais aller si jamais je perdais la vie. » Ça, c'est le salut qui nous donne la joie. Et malgré les circonstances, le chrétien, c'est pas celui qui se balade avec un sourire béat aux lèvres, quelles que soient les circonstances, et qui s'illusionne sur la vie. Non, la foi chrétienne, elle nous rend lucide sur la vie, au contraire. Elle nous rend pas complètement illuminés, comme peut-être le monde parfois pense. « Ah tiens, lui, il a tout le temps le sourire, il est dans une autre planète, c'est un chrétien. » Non, c'est pas ça. Mais la joie du salut, c'est ça qui remplit nos cœurs. La joie d'être enfant de Dieu si on a cru en lui. Voilà qui fait notre joie. Elle est en rapport avec Dieu, cette joie. La paix que Dieu nous donne aussi, liée à notre identité d'enfant de Dieu, qu'on soit sauvé. Notre relation avec les autres, ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance. La patience, c'est supporter sans user de représailles. Supporter peut-être des moqueries, des grossièretés. La bienveillance, c'est de désirer le bien d'autrui. Ce serait l'opposé de jalouser notre prochain. Et puis la bonté, c'est aller encore plus loin que la bienveillance, c'est de passer du désir à l'acte. C'est-à-dire, je désire le bien pour mon prochain, mais là, la bonté, c'est une mise en œuvre pratique de la bienveillance. Et puis, on pourrait classer ça comme des relations avec nous-mêmes, la fidélité, la douceur, la tempérance. La fidélité, finalement, c'est dans notre rapport aux autres aussi, c'est dans le fait que les gens savent qu'ils peuvent se fier à nous. Quelqu'un de fidèle, qui fait ce qu'il a à faire, qui agit selon sa parole, qui est solide dans ses engagements. La douceur, ensuite. La douceur, c'est pas très valorisé dans notre société actuelle. Parce qu'on croit que c'est un signe de faiblesse. Mais au contraire, la douceur, c'est une force. Pouvoir répondre par la douceur. On se rappelle de, par exemple, Martin Luther King qui apprenait la résistance non violente. Mais quelle force! Au contraire, que de répondre par la violence, ça c'est normal. Notre cœur nous pousse à répondre par la violence. Mais ce que Dieu peut faire dans nos cœurs, c'est de répondre par l'amour. Et là, vraiment, je remercie Dieu pour le témoignage de Eliane, qui parle d'une difficulté avec quelqu'un qui lui a fait du mal. Répondre par l'amour à quelqu'un qui nous fait du mal, ça c'est quelque chose de surnaturel, c'est Dieu qui fait ça. Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il dit quelque chose de révolutionnaire. On peut pas aimer ses ennemis. Ça, c'est quelque chose qui marque les gens qui ne sont pas croyants, de voir qu'on peut répondre par l'amour. Mais c'est pas normal. C'est seulement Dieu qui peut créer ça dans nos vies. Enfin, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça concerne à la fois notre langue, parce que quand on n'a pas notre maîtrise de soi, notre langue peut déborder. Hein, un petit membre, mais capable de beaucoup de choses. De bénir d'un côté et de maudire de l'autre, dit Jacques. Dieu nous change, nous transforme pour nous apprendre à maîtriser notre langue, nos passions, ce qui s'attache à nous, et même plus difficile, nos pensées. On peut-être réussir à maîtriser ses actes, on prend sur soi. Face à une hostilité, une situation difficile, on ne dit rien, on répond par le silence, mais dans nos pensées, là c'est plus compliqué. Et ça, c'est l'action de Dieu qui peut transformer nos pensées. Une réflexion sur cette terminologie, le fruit de l'esprit. Intéressons-nous à la deuxième partie, le fruit de l'esprit. On l'a dit de différentes manières, mais le fruit de l'esprit, il a une origine surnaturelle de l'esprit. C'est pas de l'esprit humain là qu'il est question, c'est de l'esprit avec un grand E, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous. Dans ce cadre, tout ce qu'on énonce ici, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre en comptant sur nos propres ressources. On peut pas parvenir à porter ce fruit par nos propres ressources. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné sa loi pour dire ce qui était bon et pour dire ce qui était mal. Et la loi de Dieu ne change pas parce que Dieu ne change pas. Ce qui était bon hier, c'est bon aujourd'hui. Ce qui était mal hier, c'est mal demain. Mais alors, qu'est-ce qui change pour nous entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Une des choses, c'est la promesse de l'Esprit. Voilà ce que Dieu dit par le prophète Ézéchiel. Il dit que dans l'avenir, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Autrement dit, ce qui est nouveau, c'est pas la loi, mais c'est que Dieu donne la capacité de vivre cette loi. La conclusion de l'ancienne alliance, c'est on n'arrive pas à vivre cette loi. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous sauve et nous donne son esprit pour nous rendre capables de vivre selon ses lois. C'est ce qu'il dit, je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Et ça, c'est un don de Dieu, c'est le don de son esprit, et c'est une action surnaturelle que Dieu fait par son esprit. Donc pour porter ce fruit, il faut nous laisser transformer par l'action de Dieu. Transformer par l'action de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons par nous-mêmes entraver l'action de son Esprit dans nos vies, par des péchés récurrents, non confessés, etc., par pas mal de choses, où on ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, et c'est pour ça qu'on ne porte pas le fruit qu'on aimerait. Parce que l'Esprit, nous l'entravons dans son action. Et d'ailleurs, c'est énoncé de cette manière-là. Laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons laisser Dieu nous transformer. Donc, on pourrait en conclure à tort. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien, parce qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Mais c'est pas ça, parce qu'on va s'intéresser à la première partie, c'est le fruit de l'Esprit. Et on peut retenir de ce terme-là qu'il y a aussi une part de croissance naturelle dans le développement de ce fruit. Il nous appartient à nous de cultiver les conditions de croissance de ce fruit. Et vous le verrez du coup dans le chapitre 6 la semaine prochaine, mais il y a cette image de la semence. Et Paul va dire, mais qu'est-ce que vous semez? Est-ce que vous semez pour la chair ou est-ce que vous semez pour l'esprit? Cultivons-nous les conditions pour que le fruit de l'esprit croisse dans nos vies. Cultiver les conditions de croissance de ce fruit, c'est le programme d'une vie, c'est une visée générale, un but général. Mais en fait, ça commence dans des actes quotidiens, dans des petits actes quotidiens de savoir ce qu'on sème. Est-ce que dans ma vie, je sème de la télévision? C'est de manière imagée que je dis ça. Est-ce que je cultive la violence dans mon esprit? Est-ce que je cultive l'immoralité? Peut-être en consultant des sites internet que je ne devrais pas. Qu'est-ce que je sème dans ma vie? Est-ce que je sème pour la chair ou est-ce que je sème pour l'esprit? Est-ce que, au contraire, j'alimente mes pensées, ma vie d'une communion avec Dieu? Que sa parole puisse imprégner et orienter mes pensées. Il y a un proverbe qu'on utilise souvent à ce sujet-là qui dit que une pensée va produire un acte. Un acte va produire une habitude quand ils sont répétés. Un acte produit une habitude. Une habitude devient une personnalité si elle est cultivée. Et une personnalité donne une destinée. Ce que ça nous enseigne, c'est que ça commence petit. C'est juste une pensée. C'est rien une pensée. Mais si on cultive dans nos pensées des choses qui honorent Dieu, eh bien, on va récolter des actes qui honorent Dieu, parce que nous aurons orienté nos pensées sur ce qui plaît à Dieu. Et donc, c'est ça qui va diriger naturellement ce que nous faisons. Et donc, il y a une vraie lutte dans nos pensées. Jésus a dit que celui qui dit imbécile à son frère, il est déjà coupable de passer devant le tribunal, devant le Sanhédrin. Et tout commence dans les pensées. Je jalouse mon prochain ou j'ai de la haine envers lui. Et en fait, c'est la semence qui, si elle est entretenue, à la fin va me conduire au meurtre. Donc, il y a un aspect où nous sommes appelés à semer, symboliquement parlant, pour l'esprit. Et on sème chaque jour. Et on peut se poser la question de nos pensées, nos habitudes, notre style de vie, nos amitiés aussi. Les gens qu'on fréquente aussi forgent qui on est et comment on vit. Que le Seigneur nous aide à s'examiner soi-même, à lui remettre tout cela et lui demander sa direction, peut-être de voir s'il y a des choses qu'il veut que nous changions. L'image du fruit, enfin, aussi nous évoque celle d'une maturation progressive. On raconte l'histoire d'une petite fille qui allait acheter avec son papa un bulbe d'une fleur dans un magasin de jardinage. Et donc, il y a la photo sur l'image et donc elle voit une belle fleur. Et puis, il y a juste le bulbe. Et donc, on va aller le planter dans le jardin avec papa. Et on va remettre la terre, etc. Et puis on lui a dit, voilà, il y a une belle fleur, comme sur l'image, qui va pousser. Donc on la met dans la terre, et puis la petite fille, elle dit, mais ça marche pas, quoi. Elle n'est pas là, la fleur. Comment c'est possible? Donc elle lui explique, non, il faut attendre un peu. Donc voilà, ils vont se coucher, et puis durant la nuit, le papa, il entend du bruit, il se dit, c'est quoi ce truc? Il sort et il voit la petite fille qui est sortie dehors, qui a enlevé toute la terre, et qui essaye de tirer sur la semence pour la faire grandir et en faire devenir une belle fleur. Et quelquefois, on est un peu tenté de faire la même chose. On a envie de tirer sur le bulbe là pour que ça devienne une fleur tout de suite. Et on peut se désespérer et se dire « Waouh, Galates 5, 22, franchement, je suis loin, j'y arrive pas. » Et souvent, je me dis « Ah, mais Seigneur, moi, j'ai du mal à avoir la joie. C'est pas mon tempérament, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas à être patient. Franchement, je suis impatient, c'est trop dur dans ma vie. Et pourtant, je suis chrétien, je comprends pas le fruit d'esprit. » On peut se décourager. Je crois que, au contraire, il y a un grand encouragement pour nous dans le fait que si on est fidèle, dans le fait de semer pour l'esprit, le Seigneur va honorer cela et ce qu'il a commencé en nous, il va le parfaire, il va nous transformer petit à petit. Si nous avons l'impression de perdre notre temps quand nous ouvrons la Bible le matin parce que ce matin on n'est pas bien réveillé et que le texte ne nous parle pas et que j'arrive pas à prier, etc. Et combien de fois ça peut arriver, ne nous décourageons pas. Mais continuons à cultiver des bonnes habitudes pour nos vies, à ce que Christ soit présent dans nos pensées, dans nos actions, parce que le Seigneur va nous transformer petit à petit, il va nous faire remporter des victoires dans nos vies. Abandonner peut-être quelques éléments qui ressemblaient plutôt aux œuvres de la chair dans la première partie du texte, Je discutais avec un ami hier et puis il me disait, voilà, quand je suis devenu chrétien, j'avais 18-19 ans et puis j'ai vraiment vu Dieu changer des choses dans ma vie, vraiment. Il y a des choses qui ont changé, c'était évident. Et il me dit, mais maintenant que j'ai la cinquantaine, il y avait des choses que j'avais pas vues encore, que Dieu voulait changer et que maintenant il m'a montré et qu'il est en train de changer encore. Et je crois qu'on peut, on peut se réjouir du fait que Dieu va nous transformer petit à petit. J'aimerais conclure avec quelques conclusions pour nous de ce texte. Que tirer de ce texte ? D'abord, une attitude d'humilité et de foi, parce que nous l'avons dit, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce que Dieu nous demande en revanche, c'est de rester attaché à lui. Jésus a pris cette image du cep et du sarment. Il a dit, si vous voulez porter du fruit, il faut demeurer attaché au cep. Il n'y a pas de raccourci. Si on coupe une branche, on la met par terre là comme ça dans le jardin, ça va pas se développer et porter du raisin en ce qui concerne un pied de vigne. Non, c'est pas possible. Il faut rester attaché au cep. Et donc cette image du fruit, il faut cultiver les conditions qui permettront le développement du fruit. Donc, première exhortation, humilité, c'est Dieu qui fait, et Dieu est tout puissant et il accomplit sa parole. Foi que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et donc ce qui va avec le pendant, c'est aussi de la discipline dans nos vies, de cultiver les conditions de cette croissance, afin que ce fruit progresse dans nos pensées, dans nos actes, dans nos relations les uns avec les autres, et que Christ soit visible dans nos vies, que nous puissions porter ce beau fruit. Donc cultivons les conditions de croissance du fruit, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans le fait de pratiquer de bonnes œuvres envers notre prochain. Voilà, persévérons là-dedans. Humilité et foi, discipline et enfin patience. Comme on l'évoquait avec cette image de l'enfant qui essaie de tirer sur le bulbe pour qu'il devienne une plante. Non, nous devons patienter. Certes, nous ne devons pas être oisifs et dire « Non, mais faut patienter, ça va se faire. » Non, on peut pas dire ça. Mais patienter, parce que on utilise souvent l'image du chêne. Un chêne, ça se fait pas en un an comme ça, quand vous voyez des arbres magnifiques. Peut-être qu'il a 100 ans cet arbre, pour qu'il devienne cet arbre majestueux. Le Seigneur aussi va nous transformer petit à petit, si nous persévérons dans la foi. Il va nous transformer. Et l'apôtre utilise dans certaines versions ici l'image de la marche. C'est marcher par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit, ça dépend comment c'est traduit. Mais si on garde l'image de la marche, j'ai le souvenir d'un livre de Ralph Challis que je vous conseille, c'est toujours un basique, c'est si tu veux aller loin. Et dans ce livre, il parle de marcher par l'esprit dans un chapitre où il évoque ce qu'on peut retenir de cette marche. Marcher, c'est pas courir. Ok, l'apôtre Paul utilise l'image de la course aussi dans d'autres passages, mais ici c'est marcher. Et marcher, c'est un pas après l'autre. On peut pas faire deux pas à la fois, sinon on va trébucher, on va tomber, ça rime à rien. Faut avancer pas à pas, avec l'aide du Seigneur, un pas après l'autre, pas deux pas à la fois, pas précipiter, mais marcher avec l'aide de Dieu. Il est présent, il nous a donné son esprit. Et nous devons donc nous soumettre à son esprit. Et Dieu nous transformera et nous pourrons le glorifier, non parce que nous avons accompli des œuvres de l'esprit. Non, c'est pas marqué œuvre de l'esprit, c'est marqué fruit de l'esprit. C'est Dieu qui le produit dans nos vies. Et nous pourrons donc le glorifier et pas nous glorifier nous-mêmes. Voilà, j'espère que ce texte vraiment nous encourage à persévérer dans la foi. Si nous avons cru, l'Esprit de Dieu nous a été donné, il est présent en nous. N'attristons pas le Saint-Esprit, mais marchons par l'Esprit. C'est lui qui nous rend capables de suivre la loi de Dieu et de lui être agréable. Je vous propose un temps de prière pour conclure.